Bien, monsieur le député maire, monsieur le président de Sèvres Environnement, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les présidents d'associations. Mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier cette association pour avoir organisé cette manifestation et m'avoir convié à y participer. Je dirais surtout à me fournir l'opportunité ce soir de partager avec vous quelques interrogations, quelques réflexions que suscite pour le pédiatre la problématique de l'incidence d'un environnement pollué sur la santé de l'enfant. Et en tant que pédiatre endocrinologue, je me focaliserai surtout sur les conséquences endocriniennes de la pollution environnementale. Et je vous démontrerai par quel mécanisme cette pollution est susceptible de modifier l'équilibre endocrinien. Alors, j'ai trop de force et j'ai appuyé un peu trop fort. Comment revenir sur le passé ? Voilà. Alors, je dois situer un peu le débat qui nous intéresse ce soir à travers, bien entendu, le prisme d'un médecin. Hein. Alors, je dois dire qu'il y a trois questions. Je vais essayer de vous démontrer que la pollution environnementale génère un véritable problème de santé publique. J'évoquerai avec vous l'émergence, comment cette pollution a permis de faire émerger en médecine de nouveaux concepts. Et vous savez que, je dirais de façon un peu paradoxale, la pollution nous a permis de comprendre l'émergence de certaines maladies. Et puis troisièmement, le rôle des médecins, et j'espère qu'ils sont nombreux dans cette salle, le rôle des médecins dans le relais de l'information, dans la prise de conscience, et je dirais des médecins, mais surtout simplement des citoyens. Voilà. Alors pourquoi un problème de santé publique ? Eh bien, j'aurai un nombre important d'arguments pour vous les montrer, mais j'ai choisi délibérément ce soir de vous rapporter les éléments marquants d'un colloque international auquel j'ai été invité à participer, qu'organisait le professeur Skekebeck, qui est le père, au fond, de la médecine environnementale ou de la santé environnementale ou des conséquences de l'environnement sur la santé, puisque c'est le premier, bien qu'il soit pédiatre endocrinologue à Copenhague, c'est le premier qui a montré, il y a une vingtaine d'années, la diminution de la spermatogénèse chez l'homme, c'est-à-dire la diminution de la capacité à se reproduire, et ce, en relation directe avec l'environnement. Et tous les trois ans, Niels organise un sympo d'experts. Et cette année, en 2009, donc fin mai, début juin, je vous ai ici listé les principaux messages. Alors, le premier message, je vois un peu mal, on peut... Voilà. Le premier message, c'est un Australien qui l'a délivré, Peter Koopman, qui a intitulé son intervention, donc il y a trois mois, en parlant de la différenciation sexuelle chez l'homme, il a évoqué un désastre qui va apparaître sur l'impact de la pollution, sur la différenciation sexuelle de l'espèce humaine. Eric Leffer, à Copenhague, a montré que les phtalates, j'y reviendrai, les phtalates qui ne sont pas des pesticides mais des produits chimiques stabilisateurs, sont capables d'altérer la mise en place du testicule fœtal. Katharina Menn, et je vais m'arrêter mais je vous livre les principaux messages, a rapporté qu'il y avait un lien entre la cryptorchidie, c'est-à-dire le testicule non descendu, dont on sait qu'il est un élément de genèse de la stérilité chez l'homme, eh bien que ces testicules qui ne descendent pas s'observe avec une prévalence plus importante chez les enfants qui sont nourris avec un lait maternel contenant des pesticides. Bien d'autres encore, puisqu'il apparaît maintenant un polymorphisme d'action des pesticides qui touche ce que nous pressentions déjà, jusqu'à l'identité sexuelle de l'individu. En altérant le rôle des hormones au niveau du cerveau, les pesticides sont capables, au fond, de modifier certaines structures qui vont gouverner notre identité sexuelle. Et donc, on peut concevoir, dans les années à venir, eh bien, une augmentation des troubles de l'identité sexuelle, ce que nous avons déjà observé en clinique. Ce qui est beaucoup plus grave, alors même que nous nous limitions aux conséquences endocriniennes, il apparaît de plus en plus que les pesticides sont impliqués par des mécanismes bien établis dans le développement du tissu adipeux, et donc, je pense que vous allez tous le mot au bout de la langue, dans le développement de l'obésité. Il n'est donc pas exclu que ce que nous considérons, nous, pédiatres, comme une épidémie de l'obésité de l'enfant, soit en partie, à mettre sur le compte d'une pollution environnementale. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant que l'obésité elle-même, et je pense que tous les citoyens sont au courant de l'impact de l'obésité sur le développement du diabète, eh bien, certains pesticides ont été rapportés pour la première fois à Copenhague il y a 2 mois, comme étant responsables d'une insulinorésistance et donc de diabète. Donc, sans aller dans les détails, cette dernière année a permis d'observer que les pesticides, en fait, avaient un spectre d'action beaucoup plus large que celui qu'on considérait jusque-là, puisqu'ils sont capables de modifier le métabolisme de l'individu, et donc générer ou augmenter le risque de développement de maladies métaboliques comme le diabète. Et vous savez qu'il existe actuellement une véritable, on parle d'épidémie de diabète, enfin ceux d'entre vous qui sont familiers avec cette pathologie. Donc non seulement l'équilibre endocrinien mais métabolique, et à cette contamination par les pesticides s'ajoute, j'y reviendrai dans quelques minutes, une contamination par les produits chimiques en général, et parmi les produits chimiques incriminés, eh bien je vous parlerai du bisphénol A. Vous savez, ce produit banal qui constitue la base de constitution des biberons. Je pense que vous avez entendu parler des bisphénols A. Eh bien, ce bisphénol A, dont mon équipe a montré, car j'ai aussi la chance d'avoir une équipe INSERM, de génétique moléculaire, eh bien, nous avions montré il y a 10 ans que le bisphénol A était un perturbateur endocrinien, il y a 10 ans. Eh bien, il a été rapporté il y a 3 mois que le bisphénol A était aussi responsable d'une altération du développement du système nerveux. Donc, au total, non seulement anomalie endocrinienne, anomalie du développement, anomalie du système nerveux, anomalie de l'identité sexuelle, anomalie métabolique. On voit donc, à travers ces observations tout à fait récentes, non encore publiées, donc là c'est la première fois que j'en parle en public, eh bien, se mettre en place un spectre d'affections extrêmement large en relation avec la pollution chimique en général et avec les pesticides en particulier. Alors, émergence de nouveaux concepts, oui. Et vous savez que la médecine évolue depuis des siècles à travers de grandes révolutions ou l'acquisition de nouveaux concepts. Eh bien, de façon assez paradoxale, mais je dirais dramatique, les pesticides sont à l'origine d'un concept qui est extrêmement intéressant, mais qui est préoccupant pour l'avenir. Eh bien, les pesticides sont capables de générer une altération fœtale, c'est-à-dire de toucher, d'altérer un tissu chez le fœtus, dont la conséquence se révélera à la puberté, voire à l'âge adulte. J'espère être clair. Donc c'est un nouveau concept de l'origine fœtale d'une maladie, d'une pathologie de l'adulte. Et on sait maintenant que l'hypothèse du professeur Skekebeck, qui rapportait la diminution de la spermatogénèse chez l'homme, eh bien cette hypothèse qui est devenue réalité, elle a été confirmée par toutes les équipes dans le monde, eh bien cette diminution de la spermatogénèse trouve son origine par une attaque des cellules fœtales par les pesticides. On voit donc comment un mécanisme fœtal peut générer une pathologie d'adulte. Mais que les jeunes femmes présentes dans l'assistance ne se réjouissent pas trop vite, puisqu'il a été rapporté que les pesticides étaient capables également d'altérer la fonction ovarienne fœtale et d'entraîner à l'âge adulte ce que nous appelons des ménopauses précoces, et donc des ovaires qui s'arrêtent de fonctionner plus tôt qu'à 50 ou 60 ans, l'âge correct de la ménopause. Donc, visiblement, nous sommes au-delà, et je ne fais pas de catastrophisme, hein, je ne suis pas là pour alerter les populations, mais pour informer nos concitoyens. Nous sommes là, à l'aune, je crois, d'une nouvelle pathologie dont les développements sont considérables. Deuxième élément nouveau, ce n'est plus un concept, mais c'est une réalité. Vous savez qu'on a toujours appris, on vous a dit, et les grands généticiens nous ont appris que nos traits génétiques étaient inscrits dans le marbre, et que les gènes que nous recevions de nos parents respectifs étaient là pour toujours. Ceci est vrai. Mais ce que nous savons maintenant depuis quelques mois, quelques années, c'est que la génétique, certains gènes peuvent être modifiés par l'environnement. On vous a dit, sans doute, pour ceux qui sont informés, que l'alimentation pouvait modifier certains gènes. Je pense qu'on le pressentait. Vous savez qu'un enfant nourri très tôt à l'alcool, enfin ce n'est bien entendu pas dans cette région, hein, mais un enfant qui est habitué à consommer de l'alcool tôt va avoir à l'âge adulte une tolérance plus grande. Je pense que c'est de notoriété publique. Le bon sens populaire le sait, le confirme. Eh bien, en fait, c'est parce que l'alcool modifie certains gènes hépatiques de tolérance à l'alcool. Je ne sais pas si je suis clair. Eh bien, actuellement, il a été démontré que certains gènes pouvaient être modifiés par l'environnement. En d'autres termes, notre génétique n'est pas fixée pour toujours et qu'un environnement délétère peut modifier l'expression de gènes. C'est une véritable révolution. À celle-ci s'ajoute un troisième message qui est, à mon sens, qui perturbe le plus les médecins, les pédiatres et certains éléments de la société informée. Il a été rapporté chez l'animal, dans une revue prestigieuse qui s'appelle Science, que un rat traité par des pesticides, une rate gestante traitée par des pesticides, présentait chez les petits ratons de première génération des anomalies de la différenciation sexuelle. C'est ce qu'on attendait. Mais Skinner a montré que ces anomalies, et notamment ce qu'on appelle dans notre jargon par des mécanismes épigénétiques, ces anomalies pouvaient être transmises jusqu'à la sixième génération. C'est amusant, juste une parenthèse, parce que enfin bon, je ne veux pas faire de parenthèse. Non, mais il est écrit dans la Bible que les malédictions seront transmises jusqu'à la sixième génération. C'est quand même extraordinaire qui est cette simultanéité, mais je ne crois pas que l'horloger ait été informé des conséquences de la génétique jusqu'à la sixième génération. Bon, je dis ça pour détendre un peu l'atmosphère, mais ce qui est préoccupant. Donc, vous allez me rétorquer, mais monsieur, cette démonstration a été faite chez la rate, et entre la souris et la femme, il y a de grandes différences, a priori. Mais enfin, bon, il y en a. Non, il y en a. Bon, en fait, une équipe américaine a montré, il y a quelques années, sur un petit lot d'enfants, et nous sommes en train de publier ce travail, vous avez peut-être entendu parler du distilben. Le distilben est un estrogène qui a été prescrit aux femmes enceintes, environ, on pense à 1 million de femmes, et pour maintenir la grossesse et pour permettre un apport d'estrogène qu'on considérait comme indispensable. Or, le distilben est un xénoestrogène, et ce xénoestrogène s'est révélé entraîner non seulement des malformations chez les garçons, mais des cancers à la puberté chez la fille, avec un risque tout à fait significatif. Et il a été rapporté il y a 2 ans par une équipe américaine, et nous sommes en train de publier nos résultats à partir d'une expertise de l'association Orage qui draine un grand nombre de familles de mamans distilben, eh bien que les mamans traitées entraînaient des informations chez leurs enfants comme on pouvait s'y attendre, mais ce que nous sommes en train de démontrer, c'est que la prévalence des malformations est 3 fois supérieure à la normale, non plus chez les enfants, mais chez les petits-enfants. Ceci va être publié, c'est fait à partir d'une étude nationale sur 1000 familles, donc scientifiquement, avec 4 témoins, scientifiquement bétonnés. Donc ça signifie que les xénoestrogènes, et je vous dirai tout à l'heure que les pesticides sont des xénoestrogènes, vous voyez le lien, leur mécanisme d'action est le même, le distilben et les pesticides agissent sur le récepteur de la même façon. Donc, ce qu'on a observé, ce que Skinner a observé aux États-Unis chez le rat, ce que plusieurs équipes ont observé dans la deuxième génération de mères distilben, montre à l'évidence qu'il y a une transmission transgénérationnelle. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire tout simplement, les pesticides, comme de nombreux produits chimiques, sont capables d'altérer l'ADN, c'est-à-dire d'altérer l'expression de gènes, et cette expression, à travers des mécanismes complexes sur lesquels je n'ai pas, il n'est pas lieu d'insister, par des mécanismes épigénétiques, est susceptible de se transmettre. Donc il n'est pas exclu qu'une contamination importante par les pesticides soit transmissible aux générations futures. Ceci repose, vous l'avez compris, sur des données cliniques, épidémiologiques et expérimentales. Donc la problématique de la pollution chimique, elle se situe à 3 niveaux. 1, l'origine fœtale. 2, un concept d'origine fœtale d'une maladie adulte. Et troisièmement, la transmission transgénérationnelle. Alors, je crois que les citoyens ont dans ce combat un rôle déterminant. Les citoyens, mais je crois encore, sans doute par corporatisme pas du tout excessif, que les médecins généralistes, les pédiatres, ont un rôle clé dans le relais d'informations, non seulement pour la prise en compte des angoisses des familles, car elles sont légitimes, mais aussi comme rôle de relais d'informations auprès des décideurs, c'est-à-dire auprès des hommes politiques. Voilà pourquoi je crois que les médecins ont dans ce combat que nous menons un rôle déterminant, et je dois vous dire qu'avec le professeur Belpomme, nous venons de créer un diplôme interuniversitaire de santé environnementale, et l'université de Montpellier va être la première à développer cet enseignement, c'est-à-dire qu'elle répond à une demande de la part des médecins. Alors, la position du problème, on l'a évoqué, voici les faits concrets. Il y a 2 ou 3 ans, Une équipe américaine a mis en évidence que dans le sang du cordon, qui est le reflet de tout le métabolisme fœtal des huit mois qui ont précédé. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qu'est le sang du cordon, hein, le sang que l'on coupe au moment de l'accouchement et qui, théoriquement, nous sépare définitivement de notre mère. Je dis théoriquement. Eh bien, ce sang du cordon, on a rapporté qu'il contenait plus d'une centaine de produits chimiques. En d'autres termes, le nouveau-né qui arrive est déjà contaminé par une centaine de produits chimiques. C'est tellement préoccupant que dans une revue américaine de pédiatrie qui est notre bible, qui s'appelle Archive of Disease of Childhood, un des éditeurs a écrit cette phrase extrêmement préoccupante. Je vous la traduis pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais. Comment protéger nos enfants qui ne sont pas encore nés? Pas si vous voyez la problématique. Comment protéger our unborn children? Comment mesurer les milliers, thousands, of chemicals chez des enfants qui ne sont pas encore nés? Vous voyez qu'il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit. C'est un éditorial d'Archive, qui est une des plus grandes revues internationales de pédiatrie. Donc nous sommes là, pour ceux qui auraient des doutes encore, au cœur d'un véritable problème de société, d'un véritable problème de santé publique, d'un véritable problème qui n'est pas franco-français, mais qui est l'apanage de l'ensemble des pays. Pour la petite histoire, je vous dirais qu'au mois de juillet, j'étais invité par la société algérienne de pédiatrie, et que la première conférence qui m'a été demandée de faire était de développer l'impact des pesticides sur les maladies de l'enfant. C'est dire que c'est un problème qui dépasse largement nos frontières. Alors cette contamination, elle existe dans le liquide amniotique, dans le placenta, dans le sang du cordon, dans le méconium. Vous savez, le méconium, ce sont les premières selles du nouveau-né, qui sont le reflet de tout son métabolisme, dans le méconium, dans le lait maternel, et ce, dès les premiers jours de vie. Alors, au fond, comment a émergé le problème des perturbateurs endocriniens? Le premier élément, qui date d'une quinzaine d'années, s'inscrit dans les observations de la faune sauvage. Et tous les représentants, on l'a évoqué tout à l'heure, tous les représentants de la faune, des poissons, aux grenouilles, aux lézards, aux alligators de Floride. Alors, si j'avais le temps, j'évoquerai cet exemple qui a permis à l'un des écologistes américains de pointer la relation entre pesticides et malformations génitales. Les mammifères sauvages, la hyène, y compris l'ours polaire. Et il y a eu, il y a quelques années, un très beau travail, je crois que vous l'évoquiez. L'ours polaire se dévirilise. Pourquoi dans l'Antarctique, l'ours polaire a-t-il une raison de voir sa verge rétrécir, ses testicules ne plus descendre, avoir une cryptorchidie, hein, je pense que maintenant vous êtes... Enfin, pour ceux qui ne sauraient pas, je rappelle quand même que chez l'homme, les deux testicules doivent être dans la bourse. Hein. Non, mais on ne sait jamais. Donc, quand le testicule ne descend pas, c'est qu'il y a une malformation qu'on appelle cryptorchidie. Alors, il faut descendre ces testicules, et c'est certainement pas une intervention qu'on doit faire manuellement. Hein. C'est assez sensible. Bon. Donc, pourquoi ces ours sauvages présentent-ils des signes de dévirilisation? Eh bien, parce qu'on a pu montrer dans leur sang une concentration très élevée de pesticides qui provenaient de l'Alaska, d'après vous? Bon, certainement pas. Qui provenaient d'une pollution très intense du Midwest américain. Et les pesticides avaient survolé le Canada par des flux aériens que je ne saurais décrire. Vous voyez ? Middle West, ils traversent le Canada et ils sont venus s'épandre sur l'Arctique. Et donc, on a pris conscience d'une certaine universalité de l'impact des pesticides, puisque en vivant dans le Middle West, vous contaminez les habitants et les animaux de l'Alaska, et vraisemblablement dans le Sud aussi. Donc, premier élément, la dévirilisation de tous les représentants de la faune sauvage. Deuxième élément, les conséquences d'un traitement par le distilbène. Je l'évoquais tout à l'heure, on sait que les mamans qui ont pris du distilbène donnent naissance à des garçons qui ont une augmentation anormalement élevée, ce que nous appelons une prévalence de malformations génitales. Plus de garçons avec des micropénis, c'est quand même un problème, quoi qu'on dise, hein, malgré ce que je lis, qui est souvent écrit d'ailleurs. Bon. Non, mais parce que quelquefois, ça me fait hurler, quoi. Quand on dit que la longueur n'est pas un élément déterminant, ça fait sourire, quoi. J'ai jamais... Enfin, bon. Donc, les micropénis, on en voit de plus en plus. Et donc, chez les enfants de mère distilbène, les cryptorchidies, les hypospadias, c'est quand la verge se forme mal. Donc, ce sont les conséquences d'un distilbène. On s'est dit, tiens... Le distilbène, qui est un xénoestrogène, induit des malformations génitales. Vous voyez la logique ? Donc c'est un élément qui a contribué au débat. Troisièmement, bon voilà la structure. Le distilbène a une structure proche du DTT. Donc vous voyez pourquoi c'était facile. On avait un exemple humain de contamination par des xénoestrogènes. Je passe, je n'ai pas trop le temps. Troisièmement, alors ça c'est tout de même une préoccupation sérieuse. Et si quelquefois j'insère quelques plaisanteries de mauvais goût, c'est surtout pour détendre, parce que la situation est préoccupante. Nous sommes tous les pédiatres et tous les grands centres sont confrontés à une augmentation de la prévalence des malformations génitales chez le garçon. Un exemple, l'hypospadias. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que normalement, pendant la vie fœtale, les deux bourgées de l'avers se réunissent pour avoir l'équivalent d'un tuyau. Hein, et on urine à l'extrémité de ce tuyau. Bon, enfin, c'est autre chose, mais quand même, je caricature pour dire que c'est un tuyau, mais pour vous faire comprendre. Et quelquefois, les deux bourrées se réunissent mal, et l'enfant, au lieu d'uriner par l'extrémité, il urine par la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un hypospadias. Eh bien, une méta-analyse de Paolozzi a montré qu'en 30 ans, c'est publié dans Pediatrics, la revue américaine numéro 1 de pédiatrie, eh bien, la fréquence de l'hypospadias a doublé en 30 ans. Doublé en 30 ans. Ce qui est énorme. Donc, les malformations génitales du garçon voient leur fréquence dramatiquement augmenter. Diapo suivante. Et enfin, il a été démontré chez l'animal que lorsque l'on traitait des guenons notamment, des guenons gestantes, alors là encore, on peut toujours rétorquer qu'il y a une différence entre la guenon et la femme, habituellement c'est vrai, mais enfin ce sont des espèces très proches qui ont une similitude en général assez proche. Et qui ont surtout un patrimoine génétique 98% semblable. Et donc, quand on traite des guenons avec des pesticides, eh bien, les petits garçons montrent des malformations génitales. Donc, au total, suivant, le mécanisme d'action, je vais vous le montrer, pourquoi et comment. Allez-y, suivant. Voilà, nous avons développé à Montpellier des modèles cellulaires qui ont permis, il y a une dizaine d'années, d'évaluer l'impact de ces pesticides sur des lignées cellulaires, et on voit, je n'entre pas trop dans le détail, que, par exemple, vous avez ici des biphénols, donc j'en parlais, hein, constituant des biberons, et bien que les biphénols sont capables de se lier... Ah, qui est là ? Ah, c'est génial, alors. Donc, le biphénol est capable de se lier à droite au récepteur des estrogènes. Donc, il active le récepteur, il a donc une activité estrogénomimétique. Donc, les pesticides où la plupart, c'est un des messages, ont des activités estrogéno-mimétiques, et d'autre part, ils bloquent l'action des androgènes, donc ils ont une activité anti-androgène. Et vous comprenez dès lors pourquoi cette activité anti-androgène chez le garçon va freiner l'action des androgènes et entraîner des micropénis, des testicules non descendus. Je vais trop vite ou vous suivez ? Et pourquoi chez la fille, ils auront plutôt tendance à générer plus tard, après la naissance, des développements mammaires exagérés, des pubertés précoces, etc. Vous voyez la différence ? Suzanne ? Alors là où le problème, je l'évoquais déjà, mais je le confirme, le problème est bien plus préoccupant, c'est qu'au-delà de ces effets endocriniens qui sont déjà à prendre en compte, les pesticides ont des effets mutagènes, ils sont capables de modifier l'expression de gènes, ils ont un effet immunodépresseur, donc ils diminuent la réponse à une agression inflammatoire ou virale, et ils ont des effets cancérigènes, je pèse bien mon mot, et j'ai des arguments, hein, c'est pas de... Puisqu'ils sont capables de modifier l'expression de gènes, donc une action sur l'ADN à court, à moyen et à long terme. Donc finalement, comment est né le concept de perturbateur endocrinien ? Premièrement, à partir des observations de la faune sauvage. Deuxièmement, à partir des observations chez les garçons de mère distilbène. Troisièmement, l'incidence des malformations, en augmentation constante. Et quatrièmement, les données expérimentales ont fait émerger, c'est un faisceau d'arguments qui a fait discuter le rôle de produits chimiques à l'origine de ce déséquilibre endocrinien et donc de ses conséquences chez l'enfant. Alors, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de substances chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire sont des polluants chimiques, comme on l'a dit, qui sont présents dans l'air que vous respirez, dans l'eau, dans le sol et également dans l'alimentation, c'est-à-dire toute la chaîne alimentaire est contaminée et ces produits sont capables d'interférer avec tous les mécanismes d'action des hormones. Alors la liste est considérable. Je voudrais simplement vous délivrer deux ou trois messages. La France est, par rapport à la superficie du territoire, le premier pays utilisateur de pesticides. Je pense que M. Nicolino ne me contredira pas. Deuxièmement, il existe plus de 100 000 substances qui constituent la base de l'utilisation de pesticides. 100 000. Ces pesticides sont constitués d'abord d'insecticides, on a parlé du DTT, de fongicides, d'herbicides, etc. Je n'ai pas le temps de m'y... Mais la pollution chimique ne se limite pas aux pesticides. Donc la situation est encore plus préoccupante puisqu'il faut y ajouter la pollution par les plastiques, et j'évoquais tout à l'heure le bisphénol A, je vous dirai un mot si j'en ai le temps tout à l'heure, les plastiques, le bisphénol, les détergents, les acylphénols, les produits chimiques, le PCB, vous en avez entendu parler, les retardateurs de flamme et leur impact sur le système nerveux, les dioxines, produits d'incinération, et les hydrocarbures aromatiques constituent autant de produits chimiques qui sont capables de modifier l'équilibre endocrinien et au-delà, d'autres équilibres susceptibles de générer des maladies pédiatriques. Mais la situation est encore plus préoccupante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contamination sur laquelle, là aussi, il y a une volonté, de silence de la part de nos autorités, qui est la pollution des eaux de rivière par les médicaments. Et ces médicaments, je suis désolé, parce que je ne devrais pas le dénoncer, car c'est quelquefois utile, toute la contraception, tous les produits contraceptifs que vous prenez, mesdames, sont constitués avant tout d'estrogènes. Je pense que vous le savez tous. Vous le savez toutes. ces estrogènes ne sont pas métabolisés. Ils sont donc éliminés dans les urines qui vont dans les rivières. Ces rivières vont ensuite alimenter les stations d'épuration et on retrouve, il y a plusieurs travaux qui n'ont pas été publiés, on retrouve des concentrations en estrogènes avant et après épuration qui sont dramatiques. Alors si on ajoute le traitement hormonal de la ménopause, vous avez donc des milliers de grammes d'estradiol qui sont délivrés régulièrement dans les rivières. Alors, je ne vais pas pour autant proposer de suspendre la contraception. Hein. Ce n'est pas du tout mon message. Mais il y a un problème que je voulais souligner. Et si j'ajoute, et là, je suis convaincu que vous allez vraisemblablement être furieux, que j'ai appris récemment à Copenhague que les bouts d'épuration des stations, savez-vous ce qu'on en fait ? On les épand sur les champs. Excusez-moi du peu. Donc tous les estrogènes extraits de l'eau sont répandus sur nos champs, c'est-à-dire retrouvés dans nos fruits et dans nos légumes. Et que le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, de la Santé refusent de prendre en charge ce problème, il a été souligné, mais il n'en reste pas moins qu'on vit actuellement dans un contresens, on épure l'eau et que immédiatement après, on récupère ces estrogènes dans les aliments, dans la chaîne alimentaire. Donc vous voyez que la situation que je décris n'est pas catastrophique, elle est préoccupante et elle mérite qu'on s'y intéresse. Mais au-delà des pesticides, au-delà de la pollution chimique, au-delà de la pollution médicamenteuse, donc vous voyez que c'est une préoccupation qui touche beaucoup. Voilà, c'est un éditorial d'une revue de pédiatrie. Faut-il s'inquiéter ? Les journaux de pédiatrie commencent à se préoccuper. Faut-il s'inquiéter des pesticides des aliments ? Suivant. Alors je disais qu'au-delà de la contamination par les pesticides, par les produits chimiques, par l'eau des rivières et ce que j'appelle la contamination médicamenteuse, eh bien il existe une autre pollution qui est équivalente à la précédente, qui est celle que nous appelons la pollution intérieure. Et nous sommes autant contaminés par notre pollution intérieure qu'extérieure. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, des tapis et des rideaux qui sont recouverts, vous le savez, de retardateurs de flamme, la télévision, ordinateur qui contiennent un certain nombre de PCB, de retardateurs de flamme, les jouets constitués en PVC, j'y reviendrai dans quelques secondes, notamment les jouets d'origine étrangère, et il n'y a aucune connotation dans mon discours, les produits de soins, les détergents, les crèmes, etc. Il a été rapporté là au congrès de Copenhague que l'air des crèches, et notamment à travers les peintures, vous savez, qui recouvrent les tableaux, les bureaux d'enfants, de ces peintures vinylées, étaient tellement pollués qu'on considérait qu'il valait mieux laisser les enfants à l'extérieur qu'à l'intérieur des crèches. Voilà le problème. Non, je le dis avec beaucoup de sérieux. Hein. Voilà, l'air des crèches, on y trouve même des substances cancérigènes. Et c'est une étude allemande qui a été rapportée il y a 6 mois ou 8 mois au Parlement européen, lors d'une réunion environnement de l'Europe, à laquelle je participais, et récemment au congrès de Copenhague, où visiblement les crèches sont truffées de produits chimiques qui se libèrent et qui sont volatiles et donc inhalables par l'enfant. Bon, ce sont des composés organiques volatiles, je passe. Allez-y. Voilà aussi, voilà, l'Académie de pharmacie commence à prendre en compte la pollution de l'eau par les produits pharmaceutiques et notamment par les hormones et plus précisément par les estrogènes. Alors, donc, quel est le problème ? Finalement, vous allez me rétorquer, mais tout compte fait, une contamination, l'organisme se défend, l'homme s'est toujours adapté à un environnement hostile. sillon en relation avec une contamination fœtale par les pesticides. Allez-y. Nous avons également, et je m'arrête quand vous le souhaitez, Monsieur le Président, une de mes élèves est maintenant professeur dans le nord-est du Brésil, professeur de pédiatrie, et a réalisé cette même approche au Brésil, dans une université du nord-est. Alors pourquoi le nord-est ? C'est très intéressant parce que la zone est pauvre, 30% de favelas, on utilise le DTT dans les favelas, et le reste, donc les parents sont soit contaminés par le favelas, soit utilisent le DTT dans l'agriculture. Donc pour nous, c'était intéressant, et nous avons pu voir qu'il y avait là aussi, dans cette population, un nombre dramatiquement élevé de malformations génitales, sans doute en relation avec l'environnement. Alors, d'autres travaux sont venus étayer nos résultats comme ceux d'autres équipes. Un très beau travail était rapporté qu'il y avait un lien entre cryptorchidie et pesticides dans le lait maternel. Donc, plus le lait de la maman est contaminé, plus le risque de cryptorchidie, donc de testicules non descendus, est élevé. Voici un travail qui a été publié récemment par les Niçois. Ils ont fait une très belle étude à Grasse, où vous savez qu'on cultive une région fortement horticole et l'utilisation de pesticides est dramatique, et ils ont pu montrer qu'il y avait un lien entre la concentration en pesticides et la fréquence de cryptorchidie chez le garçon. Pesticides, vous voyez qu'on nous disait tout à l'heure, et ce n'est pas vous qui êtes en cause, hein, Monsieur Nicolini nous disait que le DTT est interdit, le DTT et le DDE. Regardez les concentrations de DDT et DDE à Grasse, qui ne passe pas pour être une ville hors des circuits habituels. Grasse étant, pour ceux qui au-dessus de Nice. Hein. Eh bien voilà, on trouve du DTT, du MBP, du PCB, etc. Suivante. Donc, pas de cause à effet direct, mais un faisceau de présomption extrêmement importante pour rendre compte, pour accuser les pesticides et les produits chimiques dans le développement de ces malformations génitales chez le garçon. Alors, comme on le disait, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, Skegbeck a émis l'hypothèse qu'une altération précoce du testicule chez le garçon par les pesticides allait générer une altération, donc une altération de certaines cellules qui, à l'âge adulte, produisent de sperme. Et cette hypothèse a été confirmée par de très nombreuses données cliniques et expérimentales. Donc, la diminution de la spermatogénèse est en relation, pas dans tous les cas, hein, mais une grande partie des causes de diminution de la spermatogénèse chez l'homme est en relation avec une atteinte fœtale par les pesticides du testicule. Alors, j'ai participé à ce débat sur les cosmétiques du nouveau-né. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias, mais pourquoi nous sommes opposés à l'utilisation de cosmétiques chez le nouveau-né ? Eh bien, tout simplement, vous regarderez, ceux d'entre vous qui ont de jeunes enfants, que la majorité des cosmétiques contiennent de l'EDTA, qui est un chélateur, mais qui est néphrotoxique, qui est gonadotoxique, et surtout des parabènes, dont on sait, des parabènes, c'est toute une famille, qui sont des antioxydants et des stabilisateurs que l'on trouve dans tous les cosmétiques non bio. Et donc, ce parabène, on sait maintenant qu'il est, et ceci a été démontré, un perturbateur endocrinien. Allez-y. Bon, voilà, hein, de nouveau des cancérigènes, des reprotoxiques. Suivant. Le travail a été publié dans une grande revue internationale, il n'y a aucun doute. La suivante. Bien sûr, j'ai été un peu mis en cause par mes amis de l'académie, qui sont des pédiatres de ma génération, et qui suggèrent simplement des précautions. Alors, quand vous avez du parabens, quelle est la précaution ? Ben, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Il n'y a pas de précaution, quoi. Je crois que... Précaution... Allez-y. Alors, le bisphénol A, c'est un autre combat. Le bisphénol A, vous en avez entendu parler, c'est un produit qui tapisse les canettes, qui toutes les boîtes, vous savez, quand vous utilisez une boîte de conserve, que vous grattez un peu, eh bien, vous grattez du bisphénol et vous allez partager avec votre famille tout le bisphénol que vous avez gratté au fond de la boîte. Donc, allez-y. Donc vous voyez les canettes, hein, c'est pas de la pub bien entendu, dans toutes les boissons, et les biberons. Alors pourquoi les biberons? Vous allez me dire, mais attendez, si le biberon est constitué de bisphénol A, aucun risque, certes. Mais que faites-vous des biberons avant de le donner à votre enfant? Vous le chauffez. Et le micro-ondes, comme le système de chauffage, va libérer des bisphénols que votre nouveau-né ou que votre nourrisson va absorber allègrement pendant des mois et des mois. Et la démonstration du rôle des bisphénols A est tellement significative que de nombreux pays, dont le Canada, a interdit l'utilisation des biberons en bisphénol. Je vous rappelle que dans de nombreuses villes, y compris les plus grandes universités de France et les plus grands hôpitaux de France, notamment dans le troisième hôpital de France, on utilise encore des biberons au bisphénol, c'est-à-dire à Montpellier. Donc les idées ont du mal à passer. Suivante. Alors le bisphénol, la revue de l'Académie des sciences, la revue américaine d'Académie des sciences, vient de rapporter que le bisphénol était impliqué dans la mise en place de ce que nous appelons dans notre jargon la synaptogénèse. C'est-à-dire que les neurones, je pense que vous savez tous ce qu'est un neurone, les neurones interagissent entre eux à travers des synapses, et c'est le nombre de synapses qui crée, entre autres, les capacités propres à l'acquisition, l'apprentissage, d'aucuns vous diront l'intelligence. Donc, cette synaptogénèse est fondamentale. Or, le bisphénol A modifie la synaptogénèse, et chez le primate, il induit des syndromes d'hyperactivité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont constaté que c'est un syndrome nouveau. Il y a 20 ans, quand j'étais chef de clinique, personne ne parlait d'hyperactivité. Actuellement, c'est une véritable épidémie d'hyperactivité de l'enfant. Il n'est donc pas exclu que ce syndrome soit en relation avec les pesticides. Et je m'arrête, allez-y, dernier. Les phtalates, pour finir. Les phtalates sont des constituants des jouets, sont des constituants de jeux que les enfants, vous savez, les hochets, que les enfants sucent, mâchonnent. Et donc, il est extrêmement dangereux, car on sait que les phtalates sont reprotoxiques et sont des perturbateurs endocriniens. Ils sont interdits en Europe, mais on en trouve partout, dans tous les jouets, y compris, dernière diapo, bon, dans les jeux, les plastiques, allez-y, les t-shirts, hein, tout ce que vous avez en couleur, etc., ce sont des phtalates. Voilà, dernière, allez-y. Allez-y. Bon, ça, c'est ce que j'évoquais. On passe à la conclusion. Ouais, c'est ce que je vous disais, allez-y. On passe juste à la conclusion. La croissance. Bon, ben, je vais vous donner la conclusion. Je vais vous donner la conclusion, parce qu'on me fait signe de m'arrêter, et je respecte tout à fait les modérateurs. Je voulais vous dire que nous ne sommes pas là pour évoquer un problème avec légèreté. Nous ne sommes pas là non plus pour vous annoncer que demain, il y aura une pandémie et que la moitié de la France va succomber à la grippe. Pas du tout. Nous sommes là pour partager ensemble des réflexions, les réflexions qu'ont suscité l'émergence d'une nouvelle pathologie en relation avec l'environnement. Cet environnement, il est chimique, il est particulièrement dû aux pesticides, mais à d'autres produits chimiques, notamment des produits industriels, des stabilisateurs, des composants de très nombreux constituants, et également des médicaments, notamment des estrogènes. La problématique posée actuellement est extrêmement préoccupante parce qu'elle induit des conséquences à très court terme chez le nouveau-né, à moyen terme chez l'enfant et à long terme chez l'adulte. La pathologie induite par les pesticides ou la pollution chimique est extrêmement polymorphe. Je vous rappelle que le Parkinson est 3 fois plus fréquent chez les agriculteurs qui utilisent, les tumeurs du cerveau, les tumeurs du sang, la stérilité, le cancer du sein a sans doute une participation environnementale. Le cancer de la prostate, il n'y a aucun doute. Bref, toute une pathologie émergente se voit son développement accéléré, accentué ou exacerbé par la pollution chimique. Je crois qu'il est temps d'agir en tant que citoyen, d'agir en tant que relais vis-à-vis des médecins ou mieux encore vis-à-vis des politiques, car les politiques ont pris conscience de l'ampleur du débat et, sans connaître votre député maire, je peux vous dire que je me félicite d'apprendre un certain nombre d'actions qu'il a conduites à Cholet. Et j'ai été enthousiasmé par l'introduction de l'alimentation bio dans les cantines, notamment à Barjac, notamment dans le sud de la France. À Montpellier, j'ai incité le maire, qui a été mon élève, qui est médecin et qui a été mon élève, à passer aux cantines bio. Donc il y a un certain nombre de prises de conscience politique, mais nous sommes encore loin, car n'oublions pas que nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous la transmettons à nos enfants. Je vous remercie.